c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Tous les plus grands jeux ont leur version 2 joueurs. C'est désormais le cas pour Tokaido avec la sortie de Tokaido Duo, un jeu d'Antoine Boza, édité par Funforge. Dans C'est Ludique, aujourd'hui, nous allons prendre donc la direction du Japon médiéval. Chaque joueur va incarner 3 personnages avec un objectif de vie bien précis. Le pèlerin va devoir visiter les temples et les jardins, l'artiste devra peindre des cadres et les offrir, et enfin, le marchand devra récupérer des marchandises et les revendre. La partie s'arrête dès que l'un des 6 personnages a fini ses objectifs. Objectif. Mise en place très rapide, on va déplier le plateau entre nous et chaque joueur récupère ses mini-plateaux de chaque personnage. Mais alors comment on joue? Eh bien à votre tour, vous allez lancer 3 dés. Un dé qui est associé au pèlerin, un à l'artiste et un autre qui représente les actions du marchand. Je choisis un dé que j'ai lancé, je vais donc faire évoluer sur le plateau l'un de mes personnages. Prenons le pèlerin, qui est le personnage qui a le plus de similitudes avec le voyageur de Tokaido. Sur le plateau, il y a des stations, comme dans Tokaido. Quand je m'arrête sur l'une d'elles, eh bien je fais son action. Quand le pèlerin s'arrête sur un port, on va récupérer autant de pièces que ce qu'indique la tuile du port que l'on aura posée en début de partie. Si je m'arrête sur un océan, je récupère une tuile océan qui va modifier l'un de mes personnages. Par exemple, le pèlerin pour avancer d'une case supplémentaire. Un arrêt sur les sources chaudes nous permet de récupérer un jeton qui pourra nous faire doubler une action. Si le pèlerin se déplace sur un temple, je fais progresser mon jeton sur l'échelle des temples de mon plateau pèlerin. Si je m'étais arrêté sur un jardin, j'aurais augmenté sur l'échelle des jardins qui sont ces deux objectifs. Alors on joue à tour de rôle, autant dire que si j'ai choisi le dé du pèlerin, mon adversaire va jouer avec le dé du marchand ou de l'artiste. Et moi, en tant que joueur actif, eh bien je vais récupérer le dernier dé ensuite. Le joueur actif jouera toujours 2 personnages. Si j'avais choisi le dé de l'artiste, eh bien je vais aussi me déplacer, mais à l'intérieur des terres, sur les cases au milieu du plateau, séparées par les routes et entourées des stations. L'artiste, lui, doit peindre des cadres, et pour peindre, il faudra regarder le nombre de personnages qu'il va toucher dans sa case. Ces personnages peuvent être sur les stations ou sur la route. S'il y en a 2, eh bien il peut retourner 2 cadres de son plateau. Autre action possible de l'artiste, eh bien, c'est d'offrir le premier tableau de sa collection, mais pour ce faire, il devra se trouver sur une case où l'on retrouve le même symbole que le cadre. Si c'est le cas, il offre le tableau qui lui donnera des points. On a vu le pèlerin et l'artiste, voyons notre dernier personnage possible. Si vous choisissez le dé du marchand, vous allez faire progresser donc le marchand le long des lignes oranges au centre du plateau. Et vous allez pouvoir vous arrêter sur des villages. Un village vous invite à piocher dans le sac pour récupérer autant de marchandises qu'indiqué. Si c'est indiqué 2, vous piochez dans le sac 2 marchandises. Vous pouvez stocker jusqu'à 5 marchandises, une 6e est possible si vous avez récupéré l'un des pouvoirs océans du marchand. Ces marchandises, vous pourrez les vendre en vous déplaçant dans les ports, mais attention, les ports n'acceptent qu'un type de marchandises. Une fois la vente effectuée, vous récupérez un certain nombre de pièces. À partir du moment où vous avez 10 pièces, vous pouvez les convertir en or, que vous placerez sous le plateau marchand, qui est son objectif et qui vous rapporte des points en fin de partie. Pour stopper la partie avec le marchand, vous devez avoir 6 plates d'or. N'oubliez pas que les pièces, vous pouvez aussi les récolter grâce au pèlerin qui s'arrête dans le port. La partie s'arrête dès que l'un des 6 personnages a rempli ses objectifs. Le pèlerin donc doit valider tous ses jardins ou ses temples. L'artiste a vendu tous ses tableaux. Au niveau du décompte final, pour le pèlerin, on va multiplier le nombre de temples découverts avec celui des jardins. Pour le marchand, c'est les points affichés où est posée la dernière plate d'or. Et pour le peintre, les points obtenus sont ceux du dernier cadre révélé. Dans Tokaido Duo, pour gagner, il faudra certes terminer l'objectif d'un des personnages, mais il faudra surtout savoir combiner les 3 pour cumuler un maximum de points entre le pèlerin, le marchand et l'artiste. On garde l'univers qui fait le succès de Tokaido et Namiji avec un esprit zen et des illustrations magnifiques du Japon médiéval signé Nayad. On continue de parler de l'univers de Tokaido avec Charlotte de Funforge juste après Youngblood et Luan.
C'est ludique. L'invité de la semaine.
Et mon invité de la semaine aujourd'hui, c'est Charlotte de chez Funforge. Avec elle, on va continuer à parler de l'univers de Tokaido. Bonjour Charlotte.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Alors c'est une grosse fin d'année pour Funforge avec les sorties de Namiji et de Tokaido Duo.
Oui, ce sont les 2 grosses sorties de la fin d'année. Donc on les pousse dans tous les sens, on fait des animations dans les bars, les boutiques, les associations dans toute la France. On aimerait bien le faire un petit peu plus dans d'autres pays, mais pour l'instant, en tout cas, c'est sur le marché français, parce qu'on est quand même français, avant tout. Et puis, les 2 jeux sont disponibles en français, là où les versions anglaises, allemandes et puis toutes les autres langues ne vont arriver que plus tard.
D'accord.
Donc, on les poussera à ce moment-là dans les différents pays au bon moment de sortie.
Donc, les 2 sortent finalement en même temps. Est-ce que Namiji aurait pu sortir plus tôt ?
Alors, Namiji aurait dû sortir beaucoup, beaucoup plus tôt, parce que pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité Funforge, en fait, Namiji, à la base, c'est un jeu qui a été financé sur Kickstarter. Mmh. Et avec le Covid, le problème de, voilà, du fait qu'on est une petite société et qu'on est un peu sous-staffé sur des gros projets comme ceux-là, du coup, on a eu du retard. Et normalement, la version boutique de Namiji, donc celle qui est actuellement disponible dans les magasins,
ouais,
eh bien, elle était censée arriver beaucoup plus tôt, parce que la version Kickstarter de Namiji devait être livrée bien plus tôt aux backers. Et comme on se refuse le fait de vendre les jeux avant que les backers du Kickstarter aient été livrés,
ouais,
du coup, on a décalé sa sortie, et ce jeu aurait dû sortir il y a... facile, un an et demi.
Ah oui, d'accord, ok. Donc là, c'est pour ça que Tokaido Duo et Namiji sortent finalement en même temps.
Alors... Oui, c'est ça. Du coup, on a profité pour tout imprimer en même temps.
Ouais.
Donc les deux jeux, parce que pour ceux qui suivent un peu et qui connaissent ce marché-là, plus on produit d'unités dans une même usine, moins c'est cher pour l'éditeur.
Bien
et
sûr.
Plus l'éditeur peut proposer un prix plus bas,
ouais,
aussi, pour les joueurs, pour les boutiques. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant. Donc comme finalement... du coup, avec le retard de Namiji, on se retrouve avec une sortie en même temps que Tokaido Duo. On a tout synchronisé pour que les prods soient moins chers et que du coup, on puisse baisser les prix des jeux. Parce que Tokaido Duo, il est vendu 20 euros. Et pour ceux
c'est
qui
ça.
Ont vu l'intérieur de la boîte, c'est très peu cher.
Ouais, effectivement, quand on voit le prix, on se dit « Oh oui, quand même, comment ils ont fait quoi ?» Parce qu'en ce moment, on a plutôt tendance à augmenter les prix. Hein.
C'est vrai, mais après, c'est vrai que comme Tokaido Duo s'inscrit dans une gamme qui est déjà connue à l'international, on s'est dit qu'on ferait du volume,
oui,
donc on vendrait beaucoup d'unités, et dans ce cas-là, ça valait le coup en fait, de mettre ce prix-là, mais de façon tout à fait honnête, un éditeur qui lancerait un jeu de joueurs qui est une nouveauté pure, qui n'a pas fait énormément de marketing ou de communication en amont, le vendre au prix de 20 euros pour le contenu qu'il y a dans Tokaido Duo,
ouais,
ce serait du suicide, sachant qu'en plus, il a été produit en Europe, celui-ci.
D'accord.
Il a été produit en Espagne.
Alors, on a l'impression que les classiques, aujourd'hui, ont leur version de joueur. Hein. C'est
oui,
le cas avec Tokaido. Comment ça s'est fait? C'est une demande de Funforge? C'est Antoine Boza qui a voulu faire un Tokaido Duo?
En fait, quand j'en ai reparlé récemment avec Philippe, du coup, qui est l'éditeur de Funforge et le fondateur, et Antoine, et en fait, plus personne ne sait vraiment comment ça s'est fait.
D'accord.
Et en gros, l'univers plaît beaucoup à la fois aux membres de l'équipe de Funforge et à Antoine Boza, qui est quand même un grand fan du Japon. Et en fait, l'idée, c'était pas forcément à la base, en tout cas de ce qu'ils me disent, de faire une version de joueurs.
Mm-hmm.
C'était de faire un nouveau jeu dans l'univers de Tokaido.
D'accord.
Et il y avait en effet ce petit truc aussi avec Tokaido et Namiji, c'était qu'à deux joueurs, ils se jouent moins bien, parce qu'il faut avoir faut que les joueurs jouent un joueur neutre. Et du coup, il y a pas mal de joueurs qui n'aiment pas devoir jouer un joueur fantôme qui n'est pas là autour de la table. Et on s'est dit, en tout cas c'est ce qu'ils se sont dit à l'époque, que ce serait pas mal d'avoir un vrai jeu de joueurs, mais qui ne soit pas une copie ni de Tokaido,
ouais,
ni de Namiji en version de joueur, que ce soit vraiment un autre jeu.
C'est vrai, c'est totalement différent. Ouais.
Mmh. Donc ouais.
Et on a l'impression, Charlotte, que les jeux de joueurs ont de plus en plus de succès aussi, et c'est depuis le confinement. Hein.
Clairement, oui. Tout le monde s'est retrouvé à deux, soit avec son coloc, son frère, sa meuf, son mec.
Ouais.
Et du coup, il y a eu un véritable engouement, et c'est vrai que du coup, on s'est dit, c'est le bon moment s'il faut sortir... un jeu, c'est vrai que ce serait logique dans l'air du temps aussi de sortir ce produit-là. De toute façon, il y a pas mal de projets autour de la gamme Tokaido, donc ça aurait pu être un autre jeu qui ne soit pas un jeu de joueurs qui sorte en premier, mais il s'avère qu'en effet, là, il y avait l'alignement des planètes sur plein d'aspects,
ouais,
et du coup, la version de joueurs, elle a été développée pendant assez longtemps. Hein. Antoine, je ne sais plus combien de protos différents il a fait, tester plein de versions différentes et de variantes à des... professionnels du jeu, notamment l'équipe,
ouais,
de Trick Track ou Penelope de la chaîne Penelope Gaming,
ouais,
et plein d'autres de leurs amis. Et du coup, il y a plein de trucs qui ont été abandonnés. C'est de toute façon toujours comme ça que ça se passe dans un jeu, qui ont été modifiés, abandonnés. Donc je pense que ça a pris quasiment 2 ans pour que ce soit vraiment réglé. Et à la fin, t'as pu le tester. Hein.
mais oui.
Ça donne, celui qui sort aujourd'hui. Et je pense que c'est
comme
on joue tout le temps.
C'est clair que c'est réussi. Et en plus, vous avez fait une grosse campagne, vous, sur Tokaido Duo, avec l'envoi de nombreux protos en amont.
Alors, oui.
C'est beaucoup de travail de créer des protos. J'ai vu quelques vidéos, quelques photos.
Oui, c'est vrai que C'était très amusant, c'était beaucoup de travail, comme tu le dis, parce qu'on aurait pu, comme beaucoup d'éditeurs le font, par simplicité, nous, parfois, on se demande pourquoi on fait des choses comme ça, mais peut-être parce qu'on aime bien rester au cœur du, au cœur de la création, mais soit on fait appel à une société qui, dont le métier est de faire des prototypes, sur la base de fichiers qui sont en cours de, qui sont pas finaux, mais qui sont en cours de finalisation. Nous, on a pris tout ce qu'on avait au bureau, donc, ça va de, des caisses de vin de certains d'entre nous qui étaient vides, qu'on a ramenées au bureau pour pouvoir faire les petits meeples en bois, pour les peindre à la main, etc. Et on trouvait ça chouette, puis ça nous reconnectait au projet aussi à une période où c'était assez compliqué chez Funforge pour plein de raisons. Et le fait de travailler sur un projet comme Tokaid Audio qui s'inscrit dans la gamme, qui a fait connaître Funforge et qui est connu depuis longtemps et qui est le best-seller de la gamme, ça nous a reconnecté aussi au métier d'éditeur, à l'artisanat, en fait, finalement. Donc, c'était vraiment le rush, parce qu'il fallait qu'on envoie 25, 30, 40 protos, j'ai même plus le chiffre en tête, et qu'on les fasse au bureau avec nos machines, qui tournaient en permanence, ça faisait un boucan pas possible. Mais c'était chouette, c'était une belle aventure.
Et puis, vous allez aussi souvent à la rencontre des boutiques, ça aussi, c'est important.
Alors ça, c'est très important. En l'occurrence, moi, je le fais plus du tout, je l'ai fait au tout début de ma carrière chez Funforge, il y a 7 ans. Et maintenant, c'est Maud que vous voyez, je pense, beaucoup sur les réseaux sociaux, qui se déplace avec sa voiture ou en train, selon ce qui est le plus pratique, auprès des boutiques, et pour créer un lien aussi, parce qu'on, pendant des années, on avait eu un lien qui s'était distendu avec les boutiques. Plein de raisons, on n'avait pas de commercial en interne, en fait.
D'accord.
Et du coup, on faisait tous un petit peu ce travail de commercial à droite à gauche avec des newsletters, avec Claude, l'associé de la boîte, qui s'y rendait également. Mais c'était pas optimal parce que on faisait ça quand on avait un petit peu de temps par-ci par-là. Et en fait, une relation humaine et une qualité de travail entre professionnels du secteur, elle se fait que si on se rencontre et quand on se voit, en fait.
Bien sûr. Ouais. Oui. Et comment vous choisissez chez Funforge les festivals où vous êtes présent?
Ah, ça, c'est une très bonne question. Alors, on est beaucoup sollicité, comme beaucoup d'ailleurs, pour venir sur des festivals. On va surtout au festival où il y a quand même pas mal de monde qui s'y rend. Pas parce qu'on dénigre les petits, c'est juste qu'en fait, comme on est tout petit nous-mêmes, on ne peut pas aller partout. Donc on va essayer d'optimiser, on va se rendre forcément dans les lieux où on est certain qu'il y aura une visibilité, qu'il y aura des joueurs, qu'il y aura pas mal de gens qui pourront en parler, qui pourront même, de façon très, très honnête, qui pourront faire des photos sur Instagram, qui pourront partager ça à leurs amis, etc. Donc, plus la boîte va grossir, si elle grossit, plus on pourra justement aller à de plus en plus de festivals. Mais ça demande aussi de déléguer certaines présences de Funforge à des festivals à des partenaires qui vont s'y rendre à notre place, comme c'est le cas pour Jérôme de On the Board Again, que je remercie pour son travail incroyable. Parce que moi, il m'appuie beaucoup, parce que j'ai pas le temps de tout faire, de tout planifier en ce moment. Donc lui, là, il a organisé toutes les dates en Provence de Namiji, c'est lui qui les a organisées, en fait.
D'accord.
Là où je le faisais avant pour Agricola, pour Tokaido, là, il m'appuie. Moi, je me suis occupée avec Maud, justement, qui est la commerciale, d'organiser des dates sur Paris et sur la région Île-de-France.
D'accord, ok. Aujourd'hui, Funforge, donc on l'a dit, il y a des jeux donc, que vous éditez comme Tokaido, mais il y a aussi toujours des localisations. Et puis Kickstarter, on en est où? C'est toujours une grosse partie de l'activité de Funforge?
Alors, c'est une grosse partie de l'activité de Funforge actuellement en termes de gestion de projet, parce qu'on est en train de finir de livrer Namiji dans des pays où c'est un peu plus compliqué, ça prend un peu plus de temps, donc l'Asie. Et puis aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande et quelques envois un peu supplémentaires qu'on doit faire aux États-Unis et au Canada. Mais en tout cas, États-Unis et Canada, c'est quasiment fini. Et après, il faut qu'on s'occupe de la livraison, mais donc de la finalisation totale du Kickstarter Monumental.
D'accord.
Voilà, qui est toujours pas livré actuellement. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'énervent parce que ça fait un petit bout de temps. Et je comprends tout à fait le problème. Donc, en termes de Kickstarter, nous, on est vraiment sur finaliser les projets, les deux derniers projets, donc Namiji et Monumental, et on ne souhaite plus faire de Kickstarter pour le moment.
D'accord, parce que la dernière, c'était Far Cry, je crois.
Oui, c'était Far Cry, mais ça n'a pas du tout marché. En fait, dès le début, dès le lancement, on l'a annulé, en fait. On l'a annulé dans la nuit du lancement, si je me rappelle bien, parce que ça ne prenait pas, parce que les joueurs voulaient concrètement, ils voulaient le jeu de plateau de l'un des Far Cry.
Ah oui, d'accord.
Et nous, on a proposé un truc innovant, inédit, mais avec une DA qui a pas plu à beaucoup de gens, qui a plu à certains, mais qui n'a pas plu à beaucoup de gens. Quand on est dans un tunnel et qu'on est sur un projet, qu'on a tout le temps et qu'on est dans le rush, parfois on manque de recul aussi. Et finalement, par contre, quand on voit concrètement qu'au lancement, ça ne marche pas, on reste des professionnels, on sait que ça va coûter une fortune en fait pour trouver les fonds nécessaires pour réussir à sortir ce jeu, donc on l'a annulé.
D'accord, voilà. Ok. Aujourd'hui, Funforge va se reconcentrer sur tout ce qui est sorti boutique, hein, c'est ça ?
C'est ça. Tout ce qui est sorti boutique, tout ce qui est gamme de jeux qui lui appartient.
Bah,
bien sûr, on va continuer à faire de la localisation, comme tu l'évoquais là. On va continuer à traduire en français des jeux qui sont sortis dans d'autres langues, d'autres éditeurs, que ce soit les éditeurs allemands ou anglais ou américains. Mais on va surtout, comme tu le dis, on va appuyer sur nos jeux qui nous ont toujours fait vivre, qui nous ont toujours fait vibrer en fait depuis toutes ces années.
Ouais.
Parce que il faut aussi être raisonnable. On est tous assez jeunes dans la boîte. On n'est pas globalement, c'est autour de la trentaine, puis quelques personnes, trois personnes qui sont au-dessus. On a tous été un peu chien fou pendant longtemps, passionnés par le secteur. Après, il faut qu'on soit plus raisonnable sur ce qu'on peut faire, parce que sinon, on est constamment sous l'eau et c'est fatigant à force, en fait. Donc, les gens grandissent, on commence à avoir des enfants les uns les autres. Certains en ont déjà.
Bien sûr, ouais.
Et faut se concentrer sur ce qui nous fait vivre et ce qui marche. Alors, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui nous fait vivre ? Concrètement, ce sont nos jeux, donc la gamme Tokaido, Namiji, Monumental à travers le Kickstarter aussi. Et on va pousser davantage Monumental quand il sortira en boutique. Bon, alors, il sortira en boutique pas avant septembre 2023. Hein.
D'accord, ouais, on a un petit peu de temps alors.
Oui, un petit peu de temps. Et là, on va continuer à pousser Tokaido Duo, Namiji, à continuer à pousser Tokaido de manière générale et surtout aussi à bien promouvoir les jeux qu'on nous confie pour les versions françaises, de manière à ce qu'elles s'implémentent bien dans les boutiques.
Ouais.
Donc ça veut dire organiser des démos, faire de la communication sur les réseaux sociaux, envoyer des copies à la presse, tout ça prend déjà beaucoup de temps.
Bien sûr, ouais.
Donc rajouter des projets Kickstarter ou des projets de financement participatif en plus, en fait, c'est plus possible. On n'en peut plus, en fait. On est tous fatigués. Les joueurs sont fatigués d'attendre le jeu aussi. Et j'en ris, mais c'est parce que c'est un rire nerveux. Hein.
Ouais.
C'est pas du tout une situation confortable, ni pour eux, ni pour nous. Donc, c'était génial de faire ces Kickstarter. On a adoré, c'était une émulsion absolument incroyable. Maintenant, on va les finaliser, et puis on fera le bilan de tout ça par la suite pour voir ce qui nous donne envie, sur quoi on a envie de travailler dans les prochaines années.
Très bien. L'une des prochaines sorties, c'est Insert, aussi un jeu de Bruno Catala. Pourquoi avoir décidé d'éditer ce jeu abstrait ?
C'est une très... Les gens s'en étonnent et c'est normal. C'est qu'on a eu un coup de cœur pour ce jeu-là. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais fait de jeu abstrait avant. On a bien sûr distribué Patchwork pendant longtemps, qui est un jeu abstrait de Uwe Rosenberg. Mais on a eu un coup de cœur pour ce jeu. Et là, on est en train de voir quelle direction artistique donner à ce jeu-là. Sachant que peut-être qu'il ne faudrait pas qu'il soit trop abstrait non plus. On voit bien que les jeux qui marchent et qui sont abstraits, pour le public qui n'est pas amateur particulièrement de jeux abstraits uniquement, il faut donner un thème à ces jeux-là. On voit Azul ou Patchwork, c'est du jeu abstrait, mais il y a quand même un thème.
Ouais.
Alors que d'autres éditeurs, comme Gigamic, font des jeux abstraits, mais avec une DA très épurée et pas forcément de thème immersif très fort. Donc là, c'est la grande question du moment. Philippe est en train de travailler dessus. Comment illustrer, comment travailler ce projet-là?
Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Charlotte, d'avoir été ce matin sur C'est Ludique pour nous parler notamment de l'univers de Tokaido avec cette sortie de Tokaido Duo, mais aussi de Namiji. À très bientôt, Charlotte.
Plaisir. À grand plaisir.
Au revoir.
Merci à toi. Au revoir.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et C'est Ludique, ça continue. C'est le moment de retrouver Marie. Salut, Marie.
Coucou.
Alors, comment ça va? T'as passé un bon week-end?
J'ai passé un très très bon week-end, pas de festival encore cette fois-ci, mais j'ai participé à la première édition des Vieux Cons Ludiques.
D'accord.
Alors en fait, le concept, c'est de se retrouver entre jeunes et moins jeunes et de faire des jeux, mais interdiction de faire des jeux de moins de 20 ans. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'était que 2002 ou avant 2002.
Oui, oui, oui. Et il y en a des jeux avant 2002?
Eh ben, il y en a pas mal quand même.
D'accord.
Et il y en a des très très bons. Mais alors, on va pas se mentir, je sais pas si on a fait un week-end des jeux avant 2002 ou un week-end Knizia.
Ah oui, d'accord.
Parce que c'était quasiment que du Knizia. Et en fait, parce que les jeux avant 2002, comme Antoine Bozal le disait, de 1999 à 2003, etc., c'était vraiment là où Knizia touchait le soleil, comme il le dit. Et qu'en fait, voilà, ces jeux sont très bons et ils n'ont pas vieilli. On a joué notamment à Samurai, qu'il avait sorti en 1997.
D'accord.
Et il disait que ça ressortirait maintenant, aujourd'hui, ce serait toujours aussi bon. C'est pas du tout, c'est pas du tout passé, démodé.
C'est ça. Les vieux jeux ne sont pas démodés aujourd'hui. Ils pourraient ressortir.
Ouais. Et ça tourne toujours très, très bien, quoi. Enfin, pas tous, hein. Parce que moi, j'en ai fait où vraiment, ça pouvait être un peu compliqué. On en a fait un, c'était Low Runner. Donc, l'idée, c'est que c'est beaucoup de négociations de territoire parce qu'on va poser nos forteresses, nos châteaux forts et nos boucliers.
Ouais.
Sauf qu'en fait, une fois que c'est posé, on va s'attaquer, mais en négociant beaucoup de choses. Et en fait, ça m'a mis dans une position très mal à l'aise. C'est sûr qu'on a ressenti des choses. C'est un jeu où on ressent des choses. Je sais pas si c'était les bonnes choses, mais parce qu'en fait, c'est trop de négociations, de trahison,
d'accord, ouais,
d'attaques, etc. Et c'est vrai que je jouais à ça avec Ludovic Maublanc, qui disait que maintenant, aujourd'hui, ça s'est un peu adouci dans les jeux. Il n'y a jamais de trucs aussi violents, entre guillemets. Mais moi, ça me convenait très, très bien, les jeux pas trop, trop méchants.
Pas trop violents, pas trop méchants. Ah, mais il y en a un, là, il y en a un qui est sorti qui est un petit peu méchant quand même, Time of Empires, quand on se fait attaquer. On n'a pas trop le temps de réfléchir, hein.
C'est vrai, mais en fait, il y a tellement d'autres trucs à côté.
Oui.
Et que c'est un peu différent parce qu'on fait des points aussi ailleurs.
Ouais.
Et on est quand même occupé à autre chose. Et là, c'est vraiment que, comme c'est que du blabla et de la négociation.
Ah ouais, d'accord.
Et ben, en fait, des fois, tu joues avec des gens que t'aimes bien autour de la table, mais, mais tu te trahis de manière et tu fais quoi ?
Et tu les aimes plus après.
C'est ça.
Et vous étiez combien alors, au total ?
Alors, on était 14.
Ouais.
Petits groupes. Et ce qu'il faut savoir, pour du milieu du jeu et du monde du jeu, on était 8 filles et 6 garçons.
D'accord.
On
était
en majorité féminine.
Eh ben, dis donc, c'est assez rare quand même dans le monde du jeu.
Eh ben, c'est même très rare. En fait, on s'en est rendu compte après, à la fin du truc. Et je me dis, c'est quand même fou et c'est super cool.
Ben oui. Ah non, c'est top.
Et non, c'était vraiment très intéressant. Bon, il y avait des auteurs de jeux. Il y avait Antoine Bozal, Ludovic Maublanc. Il y avait aussi des gens de Twitch. Donc, il y avait Penelope Gaming, il y avait Barricadé. Il y avait Rachel, qui est anciennement du passe-temps.
Mm-hmm.
On avait des podcasteurs, on avait Zéphiriel, on avait Cyril Oisry aussi, qui est auteur de jeux. Enfin, c'est vrai que c'était très, très mélangé. Et on a fait ça chez Simon Caruso,
d'accord,
qui est illustrateur de jeux.
Mais oui, que tu avais déjà été d'ailleurs.
Exactement. Il y avait aussi Christine Alcouf. Enfin, voilà, on était vraiment remplis de très chouettes personnes. Ça s'est très, très bien passé. Vraiment très bien, et du coup on va remettre ça en avril.
Super.
Donc, en avril on fait l'édition 1, parce que là c'était l'édition 0, c'était un petit peu l'édition test.
Semaine prochaine, c'est quoi?
Alors ce week-end je vais au festival du Salon du Jeu à Paris.
Très bien.
C'est leur toute première édition, ils m'ont contacté pour...
Il nous reste 5 secondes. on en parle mardi.
Tout à fait.
Et nous on se dit à demain, salut.